Nous reprenons l'analyse de l'apparition de la notion d'hégémonie dans les cahiers et en particulier dans la note 44 du cahier 1. Alors, ces notes permettent déjà de voir qu'un certain nombre de concepts centraux sont alors d'abord indissociablement liés les uns aux autres. Hégémonie, révolution passive, on vient de le voir, intellectuelle. On va voir aussi que la réflexion sur Machiavel sur le jacobinisme apparaît aussi à ce moment-là, devient centrale à ce moment-là. Et Franzoni e Cospito, à ce propos, ont parlé, pour ces deux notes-là, d'une explosion de la réflexion théorique des cahiers. C'est effectivement ça. C'est-à-dire, les cahiers naissent véritablement, du point de vue de la pensée gramscienne en développement, à ce moment-là. L'autre point fondamental, c'est que ces concepts centraux sont ancrés dans une réflexion historique tout à fait déterminée. D'abord et avant tout, l'histoire du Risorgimento en tant que révolution manquée d'une certaine manière, ou en tant que révolution d'un certain type, révolution sans révolution. Plus tard, il dira révolution passive. Et donc, d'une révolution qui est pensée, mais là, c'est pas propre à Gramsci, toute la réflexion sur le Risorgimento réfléchit aussi en lien avec la Révolution française. Donc, la question du rapport entre Risorgimento et Révolution française, effet de la Révolution française sur le long terme, etc., est évidemment omniprésente, parfois de manière implicite, parfois de manière explicite. Et autre référent beaucoup plus implicite mais non moins présent, la révolution russe, bien sûr. Par exemple, quand Gramsci précise que lorsqu'un groupe social a pris le pouvoir, même s'il le tient, je cite, même s'il le tient, donc une classe ou un groupe social selon les versions, même s'il le tient fortement en main, il devient dominant mais doit continuer à être aussi dirigeant, il pense évidemment aussi au rapport entre ouvriers et paysans dans l'URSS des années 20. Voilà. Donc, tout cela donne lieu à une pensée, une perspective qui est éminemment comparatiste, c'est-à-dire que la réflexion, la pensée, la théorie de Gramsci naît dans un cadre qui est celui du comparatisme historico-géographique. Et ça, dans un premier temps, essentiellement autour de révolution française, italienne, Risorgimento, et jusqu'à la situation contemporaine. Et puis, ce comparatisme ne va cesser de s'étendre et d'impliquer des réflexions qui toucheront les communes italiennes au Moyen-Âge, l'Empire romain et la fin de l'Empire romain, etc., etc. La question comparatiste typique de Gramsci est explicitement posée dans ces deux notes-là, c'est pourquoi le parti d'action n'a pas joué le rôle que les Jacobins ont joué. Pourquoi là où les Jacobins en France ont gagné, le parti d'action qui est censé être l'équivalent, si vous voulez, a échoué. Il le dit explicitement, donc on peut faire une comparaison entre les Jacobins et le Partito d'Azione. Gramsci traduit dans la note 44. On retrouve ça dans la note 24 du cahier 19. Page 62-63 de l'édition française, l'édition Gallimard. On peut faire une comparaison entre les Jacobins et le Partito d'Azione. Les Jacobins luttèrent infatigablement pour assurer un lien entre ville et campagne, et ils y réussirent victorieusement. Les Jacobins luttèrent infatigablement pour assurer un lien entre ville et campagne, et ils y réussirent victorieusement. Le Partito d'Azione, non. C'est de là aussi que provient une grande partie de sa réflexion sur la littérature et sur l'histoire culturelle, et sur tout ce qui bientôt sera appelé le caractère non national populaire de la littérature italienne, en opposition à plusieurs autres littératures, et tout particulièrement la littérature française, qui a un caractère national populaire. À ce moment-là, ça n'est pas formulé encore dans ces termes-là exactement, mais dès ce moment-là, il prend l'exemple de Eugène Sue, hein, qui a su transformer en littérature la position jacobine, qui a su donner... dans l'ordre de la création littéraire, un aspect concret, effectif à la position jacobine, qui a su créer un lien étroit entre les masses et les intellectuels. Le lien entre intellectuel et peuple se vérifie ou l'absence de lien entre intellectuel et peuple se vérifie à différents niveaux, et un de ces niveaux-là, ou un de ces lieux d'expertise de la chose, c'est notamment la littérature, le domaine littéraire. Voilà, alors, bon, il est bien conscient aussi que si en Italie ça n'a pas été possible, c'est pas simplement parce que les représentants du Partito d'Azione auraient été nuls ou quoi que ce soit. C'est aussi parce que en 48, il y a déjà le fameux spectre, hein, dont parle Marx, le spectre du communisme, quoi, hein, il est déjà là, donc c'est effectivement différent. À cette époque-là. Alors, un autre volet de cette approche comparatiste, c'est qui apparaît dès ce moment-là et qui va être développé ensuite et qui est intimement lié à la question de l'hégémonie, c'est la comparaison avec l'histoire italienne plus ancienne, depuis les communes du Moyen Âge jusqu'à la Renaissance, et c'est la référence à Machiavel qui a ceci de particulier et d'exceptionnel, hein, tellement exceptionnel que le grand cahier politique, qui est le cahier 13, cahier consacré à Machiavel, mais c'est le grand cahier politique, c'est que Machiavel a posé clairement le problème du rapport entre ville et campagne. Rapport intellectuel masse, rapport ville campagne vont ensemble. Donc on a dès la note 44 l'indication suivante: le maître d'art politique le plus classique des groupes dirigeants italiens, Machiavel, avait lui aussi posé le problème dans les termes et avec les préoccupations de son temps, cela va de soi. Dans les écrits politico-militaires de Machiavel, la nécessité de subordonner de façon organique les masses populaires aux couches dirigeantes pour créer une milice nationale capable d'éliminer les compagnies de mercenaires est assez bien perçu. Ça, c'est aussi des questions sur lesquelles il faudra qu'on revienne et qu'on ne va pas développer maintenant. Mais c'est l'idée selon laquelle, c'est la référence à la création de la militia, hein, la milice florentine, c'est-à-dire ce pourquoi Machiavel s'est battu tout au long de ses années, était à la chancellerie. Pour que Florence ne soit plus défendue uniquement par des armées étrangères et des armées de mercenaires à sa solde, mais qu'elle soit défendue par le peuple de Florence lui-même et en particulier par les paysans du Contado, hein, donc des territoires qui dépendent de Florence. Voilà. Voilà. Donc Machiavel, le jacobinisme, etc. Tout ça, ça fait partie de cette explosion de la réflexion, de Gramsci dans les cahiers. Et on a, dès ce moment-là, vous le voyez quand même, une première. La question reste la même. La question reste léninienne. Le rapport ville-campagne, le rapport ouvrier-paysan, le rapport intellectuel ouvrier-paysan, mais la façon dont la notion est développée et les conditions de cette réalisation de l'hégémonie sont développées, s'émancipent déjà, et de beaucoup, hein, d'un cadre qui serait purement celui de la réflexion marxiste-léniniste. Alors, l'autre chose qu'il faut relever, c'est que le mot hégémonie a un sens plus large, hein, je l'ai déjà dit. Non seulement le mot va être applicable à des moments historiques divers, mais il va être utilisé dans bien des contextes, et notamment dans des contextes qui sont ceux de la politique internationale, des rapports de force politico-diplomatiques, de la géographie politique, et y compris dans la même note. C'est-à-dire que cette première note où il y a la question de l'hégémonie comme question du rapport des ouvriers et des paysans dans un sens léniniste, est aussi une note où il parle donc d'un des hommes d'État importants de la période de l'unité, hein, première période après l'unité, Francesco Crispi, qui a été deux fois président du Conseil donc dans les années 80 et 90, et il dit de Crispi qu'il embrasse le principe de l'hégémonie piémontaise. Donc vous voyez, sens jobertien, ou en tout cas de l'hégémonie au 19e, hein, avec une énergie et une fougue que les politiques piémontais eux-mêmes n'avaient pas, direction prise par le Piémont dans le processus unitaire, etc. etc. Vous voyez que les sens, dès le départ, hein, sont enchevêtrés. Il parle aussi de l'hégémonie exercée par la France pendant si longtemps en Europe, après la Révolution, bon, pareil. De l'hégémonie parisienne acceptée par les provinces françaises, donc là on est bien dans ville, rapport entre ville et campagne. Il parle de l'hégémonie du nord de l'Italie sur le sud de l'Italie. Voilà. Donc il n'y a pas de séparation stricte entre un sens fort dans les usages de Gramsci. Il il passe de l'un à l'autre sans solution de continuité, si vous voulez. Alors, il y a aussi une autre dimension qui apparaît très vite. C'est la dimension culturelle, intellectuelle et morale. De l'hégémonie. Alors vous en avez eu une illustration dans le fait que ce qu'il appelle simplement début 1930 la direction, ça devient l'hégémonie politique, intellectuelle et morale. Bon, donc il montre bien le processus, mais ça va, voilà, ça c'est aussi quelque chose qui se voit notamment dans le fait que il réfléchit si régulièrement, là aussi de façon souvent implicite, pas forcément explicite, à ce qu'a été le sens de l'action indissociablement politique et culturelle de l'Ordine Nuova en 1919-1920. Donc, ça, dès les premières notes du cahier 1, ou la suite des notes du cahier 1, c'est celle du cahier 3, hein, ça apparaît. Alors en particulier dans le cahier 3, note 48 du cahier 3, je veux juste vous y renvoie, on ne va pas la détailler ici, sur la question de la spontanéité et de la direction consciente. Le concept de spontané et de direction consciente qu'on a déjà vu précédemment. Ça. Donc 3.48, le cahier 3.48. Et il commence déjà à ce moment... Alors dès... la note 46 du cahier 1, cette fois-ci, donc juste après celle qu'on a vue là, longuement, a parlé d'éducation et de pédagogie comme pratique concrète de la construction de l'hégémonie. Dire qu'il n'y a pas d'hégémonie sans pédagogie. Pédagogie et hégémonie vont en même temps, et ça aussi, c'est une autre chose qui va être développée dans les cahiers. Alors, sur cette dimension culturelle de l'hégémonie gramscienne, il faut faire un sort à une question qui est une question qui a une certaine importance dans la critique gramscienne. C'est la relation étroite entre le contenu culturel, qui est une partie du contenu qui donne à la notion d'hégémonie, et sa formation de linguiste, de spécialiste de linguistique historique, sa formation de philologue, et en particulier en tant qu'élève du professeur Bartoli, qui était le représentant de la néo-linguistique dans les années 1910 et 1910-1920 en Italie. Alors, de ça, on a des traces très tôt, dès les notes, là encore, du cahier 1, et toujours en février-mars 1930. La note 73 du cahier 1 est la première note proprement linguistique des cahiers, hein, qui dans les cahiers s'occupe de questions linguistiques, et... qui évoque donc une question qui traverse toute l'histoire de l'Italie, hein, qui est typiquement italienne, bien avant l'unification. C'est une question qui naît déjà à l'époque médiévale, hein, qui est la question de la langue. La question de la langue vulgaire, hein, la question de la langue italienne vernaculaire. Déjà traité par Dante dans le De Vulgari Eloquentia au XIVe siècle, et puis qui devient une question absolument centrale dans le développement de la littérature en langue vernaculaire, en langue vulgaire en Italie au XVIe siècle, qui est une question de premier plan, de première importance au moment du Risorgimento et de l'unité, qui est décisive pour un auteur aussi important pour l'Italie du XIXe siècle que Manzoni, et qui est une question que Gramsci a étudié de très près. Il fait référence donc dans cette note 73 du cahier 1 à la polémique, hein, qui a opposé un des plus grands linguistes italiens du XIXe siècle, hein, qui est Ascoli, à Manzoni, sur la question de la langue, c'est-à-dire sur le modèle à suivre pour créer une langue nationale, créer une langue nationale. Et il fait référence à ses propres études à l'époque. Voilà. Alors, à partir, sans rentrer dans le détail hein, de ces questions-là, parce que c'est là encore, hein, on pourrait passer 3 heures là-dessus, mais pour aller très vite, si vous voulez, Gramsci est tout à fait convaincu, en lien avec l'école de pensée linguistique à laquelle il se rattache, que on ne peut à aucun moment imposer politiquement quoi que ce soit en matière de langue. Hein, c'est-à-dire d'en haut, par voie de dominion, de gouvernement, etc. En revanche, des politiques, notamment en matière de culture, etc., sont possibles, qui favoriseraient dans le corps social et qui favoriseraient aussi dans l'ensemble du territoire, hein, des phénomènes qui pousseraient à l'unification linguistique. En gros, la langue, tout ce qui est lié à la langue, tout ce qui est lié à l'histoire de l'évolution des langues et de la façon dont certaines langues prennent le pas sur d'autres, ou la façon dont on a des les langues évoluent, naissent et évoluent par interférence de certaines langues sur d'autres, etc. Hein, tout cela correspond, on va dire vite, si vous voulez, à des questions qui en sont de l'ordre de l'hégémonie linguistique. Voilà. Et donc ce sont des phénomènes sociaux. Ce sont pas des phénomènes qui sont liés simplement à des dimensions purement linguistiques ou à des possibilités de dire maintenant on va orthographier oignon sans i. Le jour au lendemain, vous dites on va orthographier oignon sans i, personne va se mettre à enlever le i à oignon. Même si. Voilà. En revanche, si à force de texto, d'iPhone, dans le corps social, tout le monde se met à écrire oignon O-G-N ou O-N-I, peut-être que oui, bientôt, on va se rendre compte qu'on est obligé de changer leur... Voilà. C'est pour vous dire, c'est ce type de phénomène-là que Gramsci connaît parfaitement, a étudié, etc. etc. Il connaissait déjà l'iPhone. Il était vraiment trop fort. Alors, sur ces questions-là, du rapport entre la question de la langue, pensée linguistique, formation linguistique de Gramsci et le concept même d'hégémonie, notamment, hein, il y a 2 textes qui sont très importants. Un livre de Lopi Parot, Franco Lopi Parot, qui est un vieux livre maintenant, parce qu'il date de 1979, qui s'intitule « Lingua intellettuali hegemonia in Gramsci », Lingua intellettuali hegemonia in Gramsci, donc la Terre de 1979, et beaucoup plus récent, un article, alors, il y a tout un ensemble, il y a plusieurs articles, mais en particulier un article de Schirru, Giancarlo Schirru, donc S-C-H-I-2-R-U, qui s'intitule donc « La catégorie di hegemonia et il pensiero linguistico di Antonio Gramsci ». La catégorie d'hégémonie et la pensée linguistique de Gramsci, toujours dans le volume dont je parlais au début, intitulé « Hégémonie au pluriel », 2008. Alors, il faut lire les deux, quand on s'intéresse à ces questions-là. Parce que le deuxième, le plus jeune, le plus récent, Skirou, reprend l'Opi par an et l'accueille en grande, grande partie, et en même temps le corrige, le modifie, et assoit aussi mieux sa thèse, démontre mieux la thèse de l'Opi par an corrigée. Où est le problème dans la thèse de l'Opi, pardon ? La thèse de l'Opi, le livre est un livre vraiment très très important, hein, et c'est même un beau livre, le livre de l'Opi par an 79. Le problème, c'est que l'Opi par an, et puis il a continué après de façon bien moins convaincante sur d'autres questions encore, mais prend prétexte de ses origines partiellement linguistiques de la pensée de Gramsci, et en particulier de sa façon de penser l'hégémonie, pour démontrer, déjà à ce moment-là, un soi-disant passage de Gramsci, en gros, du marxisme au réformisme et un reniement de la pensée marxiste, quoi. Et or, c'est pas du tout, évidemment, de cette façon-là que les choses se présentent. Il n'empêche que ce que l'Opi par eux a démontré reste vrai. Alors, ce que dit Gramsci de l'Opi par eux, c'est que on ne peut pas nier de ce que dit Skirou de l'Opi par eux, pardon, excusez-moi, on ne peut pas nier ce que dit Skirou de l'Opi par eux, c'est qu'on ne peut pas nier que le concept gramscien d'hégémonie est incompréhensible. Dans son élaboration complète, telle qu'elle s'est développée dans les écrits de prison, ce concept est incompréhensible si on ne prend pas, en considération, si on n'examine pas ces dimensions linguistiques, hein, ces significations linguistiques, sa valeur linguistique, sa signification linguistique. Ce que démontre Skirou, c'est que au fur et à mesure que se développe la notion d'hégémonie dans les cahiers, donc, et dans son sens proprement gramscien, eh bien, sa pensée politique et ce qui est proprement politique dans sa pensée, et ce qui est proprement de l'ordre des théories linguistiques dans sa pensée, convergent de plus en plus, hein, et se superposent. Voilà. Alors, l'Opi par eux, lui, la démonstration de l'Opi par eux était plutôt du genre ça a toujours été comme ça, de toute façon c'est purement linguistique, il n'y a plus rien de léninien dans l'hégémonie gramscienne, ou plus grand chose, etc. Ce qui vous dit, c'est non, effectivement, il y a énormément de choses en commun, et les choses vont se superposer, mais en réalité, c'est un processus qui est continu et qui ne va cesser d'augmenter jusqu'à la fin des cahiers. Pour preuve, le dernier cahier, le cahier 29, est un cahier purement linguistique. Alors, il est court, on est au printemps 35, Gramsci va vraiment, vraiment pas bien. Après ça, il ne peut plus rien écrire, il arrête complètement de travailler sur les cahiers, en tout cas. Mais c'est le cahier sur les questions, sur la grammaire, hein, et c'est, voilà, dans le tout dernier, il reprend ces questions-là. Et il dit ceci, hein, donc voilà. Chaque fois qu'affleure d'une façon ou d'une autre, alors là c'est pas de la rédaction C, c'est de la rédaction B, c'est-à-dire il y a une seule rédaction, c'est une rédaction de 1935. Donc c'est un peu un état de la dernière pensée de Gramsci dans les cahiers. Il a continué à penser après, mais jusqu'à sa mort, mais en tout cas dernière expression, quoi. Chaque fois qu'affleure d'une façon ou d'une autre la question de la langue, cela signifie qu'une série d'autres problèmes est en train de se poser. La formation et l'élargissement de la classe dirigeante. Formation et élargissement de la classe dirigeante, vous voyez bien que c'est déjà l'hégémonie. La nécessité d'établir des rapports plus intimes et plus sûrs entre les groupes dirigeants et la masse populaire nationale. C'est la première traduction gramscienne de l'hégémonie au sens léninien, hein. C'est-à-dire de réorganiser l'hégémonie culturelle. Donc là, on voit bien que la dimension linguistique, la dimension culturelle et la dimension politique stricto sensu, c'est-à-dire même d'origine léniniste, hein, eh ben, ne font plus qu'un dans le développement. Donc là j'ai fait un saut, hein, en passant du tout début des notes du cahier 1 à une des toutes dernières notes écrites par Gramsci. Mais vous voyez bien que le... Voilà, il y a véritablement quelque chose qui est de l'ordre du parallèle d'abord, et puis de la fusion, hein, entre des éléments qui sont de l'ordre de l'histoire de la langue et de l'ordre de l'histoire et de la pensée politique. Alors, un exemple, c'est donc la comparaison entre la note 49 du cahier 3, hein, qui date de l'été 1930, où Gramsci fait une liste de ce qu'il appellera bientôt, qu'il n'appelle pas encore à ce moment-là, les appareils d'hégémonie. Hein, là, dans cette note-là, il n'apparaît pas comme ça, mais après, ça apparaît aussi sous l'appellation d'appareil d'hégémonie. À ce moment-là, ils appellent ça donc les éléments de la structure idéologique d'une classe dominante. Hein, structure idéologique d'une classe dominante. Si on compare cette note-là, 3.49, avec la 9, une autre partie de la... Alors le début même de la note 3 du cahier 29, eh ben on a des superpositions qui sont assez parlantes. Hein. Donc, note 3.49, intitulée « Argumenti di cultura », sujet de culture, et « matériel idéologique », une étude sur la manière dont est organisée, en fait, réellement, quoi, ici. Une étude sur la manière dont est organisée dans les faits la structure idéologique d'une classe dominante. C'est-à-dire, donc c'est la deuxième colonne là que je lis, hein, traduction de. C'est-à-dire l'organisation matérielle tendant à maintenir, à défendre et à développer le front théorique ou idéologique. Point. Ça, c'est une phrase nominale, mais qui veut dire voilà, il faudrait réussir à faire une vraie étude sur cette question de l'organisation matérielle de l'idéologie. Les outils. La presse en est, en général, la partie la plus importante et la plus dynamique. Les maisons d'édition, qui ont implicitement et explicitement un programme et s'appuient sur un courant déterminé. Les journaux politiques, les revues de tout genre, scientifiques, littéraires, philologiques, de vulgarisation, etc. Les périodiques les plus divers, jusqu'aux bulletins paroissiaux. La presse est la partie la plus dynamique de cette structure. Ça peut faire sourire, les bulletins paroissiaux, mais... L'enjeu, c'est de toucher le peuple au plus près, et notamment les masses catholiques, hein, donc le bulletin paroissial. Ou les intellectuels ecclésiastiques, c'est-à-dire les prêtres, les prêtres notamment d'extraction paysanne, etc. La presse est la partie la plus dynamique de cette structure idéologique, mais pas la seule. Tout ce qui influe ou peut influer directement ou indirectement sur l'opinion publique lui appartient. Les bibliothèques, les écoles, les cercles et les clubs de tout genre, jusqu'à l'architecture, jusqu'à la disposition des rues et jusqu'au nom de celles-ci. La position conservée par l'Église. Dans la traduction Gallimard, vous avez la position, mais c'est bon, c'est un lapsus, hein, mais c'est la position conservatrice de l'Église. Non, on ne comprend plus rien quand il y a la position conservatrice. C'est la position conservata della Chiesa, la position conservée par l'Église dans la société moderne serait inexplicable si on ne connaissait pas les efforts quotidiens et patients qu'elle déploie pour développer continuellement la section qui lui est particulière dans cette structure matérielle de l'idéologie. Une telle étude, faite sérieusement, aurait une importance certaine. Non seulement elle donnerait un modèle historique vivant d'une telle structure, mais elle habituerait aussi à un calcul plus prudent et plus exact des forces agissant dans la société. Voilà. Alors, bon, la note est en soi déjà extrêmement importante, hein. Mais ce qui est intéressant de mettre en relation. Voilà, c'est cette liste qu'il fait en 35 de ce qu'il appelle les foyers d'irradiation des innovations linguistiques dans la tradition et d'un conformisme linguistique national dans les grandes masses sociales. C'est-à-dire les lieux qui sont comme des foyers d'unification linguistique qui permettent qu'on arrive à une langue nationale. Et là, il donne une liste et il commence par l'école, les journaux, les écrivains d'art et les écrivains populaires. Les écrivains d'art et les écrivains populaires, c'est ce qui fait la différence en gros entre la littérature cultivée, la littérature pour intellectuels, la grande littérature, tout ce que vous voulez, mais aussi la littérature envisagée en tant qu'elle est destinée au peuple, hein, de consommation plus facile, etc., etc. Le théâtre et le cinématographe sonore, ça c'est intéressant, mais évidemment sonore, bon, on est en 35, hein, donc on est dans les... à l'époque des débuts, hein, du cinéma parlant, le théâtre et le cinéma parlant, il faudrait dire parlant et pas sonore, je crois. La radio, les réunions publiques dans tout genre, vous vous souvenez, il disait les cercles, hein, les cercles partout où il y a de la conversation qui se fait entre les gens, etc. Y compris les réunions religieuses, hein, toujours quelque chose qu'il prend en considération. Les relations de conversation entre les différentes couches de la population, plus ou moins cultivées, les dialectes locaux entendus en divers sens, etc. Bon. Voilà. C'est juste une illustration, si vous voulez, pour, vous voyez bien aussi quelles sont les interférences entre, effectivement, cette formation à la... au processus de développement d'histoire de la langue et au processus de développement et d'affirmation de l'hégémonie. Voilà, alors, la question là des appareils d'hégémonie qu'on vient d'évoquer nous amène tout droit à une autre question, et je finirai là-dessus. Et c'est cette question-là que Jean-Claude reprendra ensuite, à savoir la question du terrain sur lequel se produit la lutte pour l'hégémonie. Qu'est-ce que c'est quelle est la dimension sociale, quels sont les lieux, quels sont les espaces dans lesquels se développe l'hégémonie, un espace du pouvoir, mais qui n'est pas à entendre, qui n'est pas à identifier avec les espaces traditionnels du pouvoir que sont les lieux de gouvernement ou les institutions publiques de pouvoir traditionnels. Et c'est dans le cadre de cette réflexion sur les espaces de développement de l'hégémonie que Gramsci développe la notion de société civile, d'une part, et réfléchit sur ce que sont les superstructures, d'autre part, les deux étant liés mais ne se confondant pas, hein, société civile et superstructure. Ne se confondant pas, tout simplement parce que, voilà, dans la tradition marxiste, évidemment, peut-être la plus grosse et la plus forte superstructure, en tout cas dans les temps modernes, c'est l'État, hein, c'est l'institution étatique. Quand Gramsci parle de société civile, il parle justement de quelque chose qui n'est pas l'État entendu en termes d'institutions politiques, juridico-politiques, etc. Et donc ça, cette question-là, il commence à la développer au cahier 4, dans la première série des appunti di philosophie, des notes de philosophie, notations de philosophie. Donc, toujours en 1930, mais à l'automne, là, plutôt à la fin de l'année 1930, à partir d'octobre. cahier 4. Hein, et dans une note très importante, hein, qui est la note 438, intitulée « Rapport entre structure et superstructure ». Qu'on va pas lire tout entière parce qu'on a voilà là aussi on n'a pas le temps, mais c'est qui est une note absolument décisive parce que c'est là que pour la première fois il transforme pour la première fois aussi explicitement il transforme le schéma marxiste traditionnel et statique. Hein, qui est ce modèle architectural, disons, de la structure qui soutient les superstructures, en un modèle plus dynamique, qu'il appelle des rapports de force, qui suivent une progression en plusieurs moments. Alors la note, donc c'est 438 et les pages c'est 457, 458 dans l'édition Gerata, hein, l'édition critique. Alors c'est, on va pas tout lire, simplement il dit il y a trois grands moments. Le premier moment est étroitement lié à la structure. Trois grands moments de développement et de réalisation de ces rapports de force qui sont décisifs dans l'histoire. Premier moment étroitement lié à la structure. Un deuxième moment qui est le rapport des forces politiques. Le rapport des forces politiques. Je cite en traduction française le texte de Gramsci, c'est-à-dire l'évaluation du degré d'homogénéité et de conscience de soi atteint par les différents regroupements sociaux. C'est-à-dire l'évaluation du degré d'homogénéité et de conscience de soi atteint par les différents regroupements sociaux. Voilà. Et troisième moment, le rapport des forces militaire. Donc, vous voyez que c'est dans ce cadre-là qu'il, c'est à partir de ce schéma-là qu'il repense la question du rapport entre structure et superstructure, mais c'est aussi sous cette forme-là qu'il retraduit et qu'il repense à sa manière la question de la lutte des classes. Il n'y a pas de lutte des classes. Si, il y a de la lutte des classes. Simplement, entre décrire une lutte des classes au sens traditionnel et décrire les différentes étapes dont se développent les rapports de force entre les différents groupes sociaux en lutte dans l'histoire... Il y a une sacrée différence parce que chez Gramsci, les choses sont éminemment complexifiées. Et surtout, elles sont complexifiées au sens où cette lutte des classes, elle va être développée autant, si ce n'est plus, au niveau politique au sens large, au niveau des superstructures, qu'au niveau de la structure. Avec ce qui est étroitement lié à la structure, donc en gros la caractérisation économique objective de telle classe par rapport à telle autre, dont l'une domine l'autre ou dont l'une domine les plusieurs autres, etc. Ok, ça existe, c'est pas contesté, c'est le premier moment, il est étroitement lié à la structure. Mais quand on voit comment se déroule l'histoire, il va falloir se déplacer et se déplacer longtemps, intensément et profondément au niveau du rapport des forces politiques. Tant et si bien que ce deuxième moment, en réalité, c'est un moment qui lui-même va être subdivisé en toute une série d'autres moments. Hein. Donc, d'autres moments, et c'est dans ces moments-là que la question de l'hégémonie se pose tout à fait concrètement. Alors, plusieurs phases de ce deuxième moment. Hein, alors, première phase qu'on peut appeler 2A, si vous voulez. Phase 2A, 2-1, comme vous voulez. Le moment économique primitif. Vous voyez que là, on revient au niveau de la question de des rapports de force dans la structure. Le moment économique primitif, appelé plus tard économico-corporatif hein, par Gramsci, il n'est pas dans cette note-là, mais il l'appellera comme ça. Là, il l'appelle économique primitif. Un moment où on est, vous voyez bien, ce moment, il est politique. Pourquoi ? Parce qu'il est politique au sens où là, on parle des consciences que les groupes ont de leur propre position dans la société et des luttes au sein desquelles ils évoluent, ils sont amenés à évoluer, hein, ou des luttes qu'ils sont amenés à mener ou à subir. C'est la question de la conscience, c'est pour ça que j'ai cité qu'est-ce que ça veut dire rapport de force politique, c'est-à-dire évaluation du degré d'homogénéité et de conscience de soi atteint par les différents regroupements sociaux. C'est-à-dire langage marxiste traditionnel, conscience de classe, si vous voulez, conscience de classe. Hein, sauf que là encore, entre conscience de classe, ok, on sait tout de suite de quoi il s'agit, et la façon dont Gramsci le rethématise, on a un niveau de complexité qui est quand même assez affirmé. Donc ce premier moment du deuxième moment, ce moment 2A économique primitif, si vous voulez, c'est le moment, on a déjà vu ça avec certains d'entre vous, le moment où l'ouvrier métallurgiste se sent solidaire de l'autre ouvrier métallurgiste, mais comprend pas qu'il fait partie d'une classe ouvrière plus vaste. Deuxième moment, moment 2B, le moment économico-politique. Économico-politique. C'est-à-dire la solidarité d'intérêt entre tous les membres du regroupement social. Et c'est à ce moment-là, dit Gramsci, que commence à se poser la question de la participation à l'État. Donc c'est à ce moment-là, véritablement, il commence à y avoir une conscience de classe plus large qui peut faire prendre conscience des processus d'aliénation, de la domination, et qui fait qu'il y a des revendications qui sont d'abord des revendications économiques, hein, donc, par exemple, salaire ou protection, horaire de travail, temps de travail, protection sociale, etc. Mais qui conduit à une première implication des classes dans la dans l'État, quoi, dans l'État. C'est pour ça qu'il dit, c'est à ce moment-là que commence à se poser la question de l'État. Évidemment, lui, il est très elliptique, il va très vite. Hein, ce contenu-là, il faut le donner. Pourquoi ? Ses notes, elles sont d'abord pour lui, là. Et lui, il sait très bien à quoi il pense quand il écrit ça. Donc après, ça implique de... Et il développe quand, en revanche, quand il est complètement dans quelque chose que n'importe quel marxiste peut traduire immédiatement, il ne développe pas forcément. En revanche, il développe quand là, il apporte quelque chose de nouveau. Et le moment de C, là, il développe. Et c'est ça. Un terzo momento. Un terzo momento. Donc un troisième moment est celui où on atteint la conscience que ses propres intérêts corporatistes, dont leur développement actuel et à venir dépasse le cercle corporatif de groupes purement économiques et qu'ils peuvent et doivent devenir les intérêts d'autres groupes subordonnés. C'est la phase qui est la plus purement politique, la phase est più schiettamente politica, qui marque le net passage de la structure à la sphère des superstructures complexes. La phase où les idéologies qui ont germé précédemment entrent en contact et s'opposent jusqu'à ce qu'une seule d'entre elles, ou du moins une seule de leurs combinaisons, donc des combinaisons de ces idéologies combinées les unes avec les autres, tendent à prévaloir, à s'imposer, à se diffuser sur toute l'ère, sur tout l'ensemble, déterminant non seulement son unité économique et politique, donc l'unité économique et politique, là, de plusieurs classes distinctes, hein, mais aussi son unité intellectuelle et morale, sur un plan non corporatif, mais universel, d'hégémonie d'un regroupement social fondamental sur les regroupements subordonnés. Complet passage d'une lutte, d'une action, d'un niveau qui était auparavant le niveau de la structure, au niveau des superstructures complexes. C'est-à-dire, à ce moment-là, doivent être développés les éléments superstructurels les plus complexes. C'est-à-dire que à ce moment-là se pose la question non seulement de la participation à l'État, de la prise du pouvoir, etc., mais se pose la question de tous les outils, tous les appareils, toutes les actions de type idéologique, de type intellectuel, de type moral, de type culturel, de type politique au sens large, quoi, qu'il faut faire pour produire cette hégémonie, cette nouvelle hégémonie, pour contrer l'hégémonie existante à laquelle on oppose une autre hégémonie, hein, qui va être décisive pour la prise du pouvoir, mais pas seulement pour la prise du pouvoir, qui va être décisive pour que de l'espoir naisse que cette prise du pouvoir ait lieu, c'est-à-dire pour créer une volonté collective, hein, qui soit au-delà des classes, pour faire en sorte que entre les intellectuels, y compris une partie des intellectuels représentant les vieilles classes, les intellectuels traditionnels, etc., y compris les grands intellectuels, mais aussi les masses dans toute leur diversité, puisse y avoir une volonté collective qui permette d'arriver au pouvoir, mais que une fois que ce pouvoir est pris, hein, il faut encore continuer à penser à ce travail-là toujours. Voilà. Donc c'est ça le passage aux superstructures complexes. Alors, il est clair aussi, et c'est la dernière chose qu'il faut, que peut-être sur cette première théorisation des rapports de force, il faut indiquer précisément, c'est qu'il est clair que là, il n'est pas en train de transformer l'histoire réelle en un schéma. Il n'est pas en train de dire tout se passe comme ça, etc. Non, il est en train de penser les moments distincts et progressifs de la façon dont les groupes en lutte dans la société peuvent prendre le dessus l'un sur l'autre, etc. Mais il distingue cela de la storia reale. C'est pas que c'est la storia reale, c'est pas l'histoire réelle. Hein. Et dans l'histoire réelle, il dit très très clairement, dans l'histoire réelle, ces moments se compliquent l'un l'autre. C'est encore plus compliqué que ça. Ce que je viens de vous dire, c'est déjà assez compliqué, mais c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de remplacer, en gros, un schéma mécaniste qui ne fonctionnerait pas dans la tradition marxiste ou qui critiquerait et qui considérerait quel schéma, ce qu'il appelle le marxisme vulgaire, quel schéma qu'on retrouve dans les textes de Plekhanov ou de Boukharine. Voilà, bon. Il n'est pas en train d'en transformer un... Voilà, changer l'un pour l'autre, quoi. Hein ? Il est en train de mettre en évidence des étapes de processus historico-politique au sein desquelles la question de l'hégémonie occupe une place inédite, hein, en tout cas inédite dans la tradition marxiste. Il est en train de montrer pourquoi, si on essaye de la formaliser, l'histoire des luttes, et on pense toujours voilà, que ce n'est pas simplement la lutte du prolétariat aujourd'hui, mais il la pense en fonction d'une réflexion historique de très longue durée. L'histoire des luttes peut permettre qu'on formalise les choses comme ça, et cette formalisation donne une évidence, donne une présence particulièrement forte à cette question de l'hégémonie, hein, de la construction de l'hégémonie, qui est le moment de C, hein, appelé de C, qui est celui-là.
Non, je vais juste introduire ce qu'on va faire
voilà,
la prochaine fois. Ouais, ouais. Et l'introduire de façon très très simple par un texte, et ça va s'arrêter là, parce que ce qu'on va introduire la prochaine fois, c'est les... que vous avez compris, à partir du moment où on touche ce centre-là, on introduit un concept qui n'était pas dans la tradition, pratiquement pas. Oui, l'alliance avec les paysans, mais il n'est pas dans cherché dans Marx, dans Lénine, il faut quand même beaucoup le chercher pour le trouver. Dans les traductions, par exemple, françaises de Lénine, vous ne trouvez pas hégémonie. Moi, j'ai passé des heures à essayer de trouver hégémonie, je n'ai pas trouvé, etc. Même dans les traductions anglaises, il y a leadership, il y a des trucs comme ça, mais voilà, donc c'est pas... Voilà, et il introduit ce truc-là, qui prend, comme Romain vient de le montrer très très bien, qui prend la place de trucs qui, alors, eux, étaient là, et un peu là, c'est-à-dire, à un moment donné, la lutte de classe, c'est, bah oui, il y a la lutte de classe, incontestablement, mais elle se dit dans bien d'autres termes, de même qu'il y a... la question des structures, rapport structure, superstructure, qui est au point de départ la question centrale du matérialisme historique, et puis qui devient ouais, une métaphore, hein, qu'on peut dont il est peut-être utile de se débarrasser pour se débarrasser des conceptions déterministes ou mécanistes. Voilà. Alors, donc ce qu'on va faire la fois prochaine. Ça sera un peu ce qui bouge là avec cette arrivée, ce nouveau concept, c'est toute une série de choses, hein, donc qu'on va regarder. C'est la conception de l'État dans laquelle s'intègre, hein, au-delà, là aussi Romain l'a déjà introduit, cette idée que jusque-là on considérait dans la tradition. On prend l'appareil coercitif qui, selon le type de production et l'économie d'un moment donné, détermine la forme de la société. Hein, voilà. Stato, hein, stato, inteso come società politica. Et puis là, il va amener quelque chose d'extrêmement important. On cherchait le concept chez Hegel, mais en l'adaptant, etc., qui est que non, l'État, c'est bien plus que ça. C'est un équilibre de la société politique avec la société civile. Hein. Et là, ça, c'est l'hégémonie. Voilà. Donc, on va voir ces concepts-là, société civile, la redéfinition autour de ça, hein, du concept d'État, et le fait que dans cette société civile qui fait partie de l'État, etc., vont jouer un rôle particulièrement opérant, hein, les intellectuels, et donc ça aboutit à la réflexion sur qu'est-ce que c'est les intellectuels, la fameuse définition qu'on finira par donner un jour d'intellectuels, des intellectuels organiques, enfin qu'on a déjà donné, mais voilà, ça, tout ça va arriver, hein, tout ça va arriver, et puis vont arriver les réflexions sur le fait que, évidemment, si on dit ça, si on dit que l'État, c'est une articulation, un équilibre entre société politique et société civile, peut-être ça a à voir avec une réflexion sur la guerre, et on va venir voir arriver un autre grand paire de concepts politiques, hein, vraiment politico-militaires, mais aussi directement politiques, de Gramsci, qui sont les concepts donc de guerre de position et de guerre de mouvement. Et enfin, donc ça commence à faire du pain sur la planche, on va voir arriver les instruments que les classes subalternes, parce que tout ça, toutes ces analyses-là, elles valent pour tout le monde. Elles valent pour les groupes dominants aussi à maintenant. Mais elles valent pour le nouveau groupe dominant en Union soviétique, mais hein, dont les premiers pas sont difficiles, hein, parce que personne ne les aide vraiment à faire leurs premiers pas. Et, mais les classes subalternes, hein, les classes dominées, les regroupements sociaux qui doivent se dessiner par la théorie de l'hégémonie. Comment on fait? Comment on fait? Alors, donc on fait avec, un, l'esprit de scission, hein, di Sorelliana memoria, hein, donc, l'idée d'affirmer la spécificité des subalternes. Donc, on va arriver aussi à cette... Rapidement, hein, on n'ira pas dans tout, parce que vous voyez bien, à un moment, on tire les fils, ils viennent tous, hein, la pelote se déroule, etc. Et donc, mais enfin, on arrive à cette question-là, et à la question, au-delà de l'esprit de scission, de l'organisation de l'esprit de scission pour mener la lutte, pour obtenir une volonté collective, nationale, populaire, et mener une réforme intellectuelle et morale, qui est le prince moderne, hein, le nouveau prince. Donc, voilà les ouvertures qu'on fera, excusez-moi pour ceux que à qui je tourne le dos, les ouvertures qu'on fera dans 15 jours. Et là, simplement, un texte que je vous lis simplement comme ça, mais qui vous donne une partie de ces harmoniques, hein, donc on va étudier les harmoniques. Et ce texte, c'est une lettre à Tagne, comme d'habitude, enfin, les lettres importantes à Tagne, 7 septembre 1931, qui évidemment est, alors pour ceux... qui sont en cours d'agrég, vous le savez déjà, mais les autres, je vous le dis quand même, complètement liés à un rapport entre Tagne et Piero Slaff, et là, vraiment, sur typiquement, c'est la question sur laquelle on lui dit, Dylan, tu nous as dit que tu allais écrire, faudrait peut-être que tu écrives. C'est-à-dire ce rapport, à la fois, pour lui remonter, à la fois, c'est vrai aussi que c'est aussi pour lui remonter le moral, pour lui faire des trucs, quoi, pour pas qu'il tombe, hein, l'expression est de lui, c'est abrutimento morale, hein, pour pas qu'il tombe là-dedans, l'abrutissement moral. Donc voilà, et pour la xème fois, Tagne, à la demande aussi de Piero Slaff, lui dit alors ça vient, et il répond la chose suivante. L'étude que j'ai faite sur les intellectuels est très vaste dans son dessin, et en réalité, je ne crois pas qu'il existe en Italie des livres sur cet argument. Il existe certes beaucoup de matériel érudit, mais dispersé dans un nombre infini de revues et d'archives historiques locaux. D'ailleurs, j'étends beaucoup la notion d'intellectuel et je ne me limite pas à la notion courante qui se réfère aux grands intellectuels. Cette étude porte aussi à certaines déterminations du concept d'État qui habituellement est compris comme société politique. Ou dictature, ou appareil coercitif pour adapter la masse populaire selon le type de production et l'économie d'un moment donné. Et non pas comme un équilibre de la société politique avec la société civile, ou hégémonie d'un groupe social sur la société nationale entière, exercée par le moyen des organisations dites privées, comme l'Église, les syndicats, les écoles, etc. Et précisément, dans la société civile, ce sont les intellectuels qui opèrent ou qui œuvrent, hein, en particulier. Specialmente. Parenthèse. Benedetto Croce, par exemple, est une espèce de pape laïque, et c'est un instrument très efficace d'hégémonie, même si tour à tour, moment après moment, il peut se trouver en opposition avec tel ou tel gouvernement. De cette conception de la fonction des intellectuels, selon moi, par cette conception de la fonction des intellectuels, selon moi, est illuminée la raison, ou l'une des raisons, de la chute des communes médiévales, c'est-à-dire du gouvernement d'une classe économique qui n'a pas su créer se créer sa propre catégorie d'intellectuel et donc exercer une hégémonie autre, en plus qu'une dictature. Hein, Esercitare, voilà, ils ont, c'est vraiment le truc, et ça, c'est là, c'est, il va dire après Machiavel. Machiavel, lui, avait senti qu'il fallait exercer une hégémonie et pas seulement une dictature. Les intellectuels italiens n'avaient pas un caractère populaire national, mais cosmopolite sur le modèle de l'Église. Et le truc qui est faux, mais bon, qui a toujours fait vraiment chaque fois tiquer les spécialistes de Léonard, mais bon, il avait dû le dire quelque part. Et à Léonard, il était indifférent de vendre au duc Valentin, César Borgia, hein, César Borgia, les dessins des fortifications de Florence. Les communes furent donc un État syndicaliste, hein, donc on revient à ces phases là, de tout à l'heure, des rapports de force, qui ne réussit pas à dépasser cette phase et à devenir Stato integrale, hein, un État intégral, dans le sens qu'il vient d'évoquer juste avant, Stato égale société politique plus société civile, hein, dictature plus hégémonie, et on verra les différentes formules. Et à devenir un État intégral, comme l'indiquait en vain Machiavel, qui, au moyen de l'organisation de l'armée, voulait organiser l'hégémonie de la ville sur la campagne, et qui peut de ce fait être nommé le premier Jacobin italien. Donc vous voyez, si on voulait tirer tous les fils de là, on fera aussi Machiavel, le cahier 13, les Jacobins, machin. On va pas faire tout ça, mais on va faire quand même Società Civile, Stato intellectuel. On n'ira pas dans le détail de l'intellectuel parce qu'après on reprendra précisément le cahier 12, hein, et puis les questions liées à guerre de position, guerre de mouvement et à moderno principe, hein, l'esprit de scission. N'oublions pas l'esprit de scission nécessaire aux subalternes.